Jeudi 13 juin, 21h sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent notre curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va pas mal.
Ouais, ben écoute...
Le week-end a été long.
Ouais.
Ouais, et non, on va en parler.
Oui, bah j'imagine, hein, parce que c'était, on en parlait la semaine dernière des différences entre l'E3 et ce qu'on appelle ce qu'il y a autour du Summer Game Fest maintenant. Et ça a eu lieu en fait typiquement entre jeudi dernier et lundi et ce lundi en fait.
Tout à fait. Ça s'est terminé lundi soir. Et ça avait commencé jeudi dernier, vers 19h, avec le Guérilla Collective, qu'on n'a pas pu voir parce qu'on préparait cette émission, mais celle de la semaine dernière.
C'est ça. Et on a eu l'occasion de voir, pour le coup, on a eu l'occasion de voir tout. C'est-à-dire qu'on a vu, non seulement on a vu toutes les conférences du non-E3, je vais l'appeler le non-E3.
Oui, ça ira plus vite.
Je préfère, plutôt que la fête à Geoff, hein, honnêtement.
Bah, surtout cette année.
Surtout cette année, c'était beaucoup plus le non-E3 que la fête à Geoff, honnêtement.
Quand même. Et on a eu aussi la possibilité de le commenter en direct, toi oui. comme moi, et jamais ensemble.
C'est ça, mais grâce à Presse F5, qui est un collectif notamment de streamers sur Twitch, qui a aussi un site et qui a la grande gentillesse d'héberger notre podcast sur Presse F5, le nerf de la game.
Et salut à vous si vous l'écoutez de cette façon.
Voilà, qui nous a cordialement invités à commenter les différentes conférences. À commencer par celle du Summer Game Fest dès le vendredi soir. Dès le vendredi soir.
Tout à fait.
Mais comme juste avant de commencer notre listing, ce qu'on va faire, on va pas vous lister tout ce qui s'est fait pendant toutes les conférences.
Ce serait juste impossible.
C'est impossible parce que j'ai pas compté le nombre de jeux. Mais
oui,
on
va juste citer des jeux sans rien dire dessus pendant toute l'heure.
Soyons clairs, il y a eu plus de 200 jeux, 200 à 300 jeux présentés en quelques jours.
J'ai pas compté, mais on doit pas être bien loin.
Voilà. Et donc,
ça va être beaucoup trop long.
Voilà. Ce que je te propose, c'est d'abord, qu'est-ce que tu as pensé en une phrase, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition, justement, de ce non-E3 ?
Ouais. Du coup, j'avais préparé tout un speech, mais je vais aller jusqu'à la moitié.
Je t'en prie.
Parce que c'était comme ça que j'allais continuer. moi, j'ai envie de dire un mot pour résumer tout ça. Bah, beaucoup. Beaucoup. Mais pas trop. Parce qu'il n'y a jamais trop de bonnes choses, et au final, on a quand même été assez bien servi. Sur l'ensemble, il y a eu des choses intéressantes.
Je trouve aussi.
Je reste positif sur la totalité, si tu veux. Ça valait peut-être pas le coup d'y passer autant d'heures.
C'est sûr.
Mais on a vu des bonnes choses.
Bah, en fait, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était un événement sur les différentes confs qui était très riche en jeux. Indépendants, originaux et en propositions sympathiques.
Mmh.
Par contre, qui était, j'imagine, ce qui a été retenu notamment par rapport à l'édition du Summer Game Fest en particulier, qui était assez pauvre en très grosses annonces qui tâchent. Et
ouais.
Entre guillemets, sachant que nous, comme on nous le dit, comme je le répète au début de chaque émission, on est plus tourné du côté indépendant de la force. Forcément, oui. On est beaucoup plus intéressé par ce qui a été proposé cette année que par ce qui est proposé habituellement, c'est-à-dire plutôt des très très grosses licences et des très gros jeux très grand public qui sont présentés.
Une course à l'armement un peu, quelles que soient les confs, avec quelques exceptions au milieu. Mais effectivement, ouais, donc on s'est quand même tapé un débarquement hein, massif, parce que c'est de circonstances.
C'est ça.
Pour célébrer la mort de l'E3, hein, globalement. Ils étaient là pour ça, hein. Je pense qu'ils étaient tous très heureux de nous présenter leurs annonces de nouveaux jeux, de beaucoup de trailers, quelques interviews. Pas mal de dates de sortie, oui. Aussi un petit peu. Il y a eu des trucs jolis, il y a eu des trucs mignons, il y a eu des trucs bof, il y a eu du OSEF complet, vraiment rien à foutre.
Oui.
Quelques trucs ont fait un peu wow.
Ouais.
Il y a eu du wow aussi, hein, il y a eu du World of Warcraft. Quand même.
Oui, il y a eu du World of Warcraft.
Quand même.
Il y a eu même des jeux qui, en pleine. Sachant qu'en fait, il y a eu aussi la récurrence de rythme assez bancal en termes de conférences. C'est-à-dire que, voilà, c'est des conférences qui vont des fois durer en général entre 40-45 minutes et 2 heures.
Oui, 2 heures, 2 heures et demie.
2 heures, 2 heures et demie.
Certaines.
Et des fois, on sent que la maîtrise du rythme, c'est pas ça. Certains s'en sont beaucoup mieux sortis. Typiquement, la conférence Xbox était la maîtrise complète.
Ah bah oui, complètement. On a vu passer Phil Spencer, et puis on l'a jamais revu. Voilà. Donc ils ont très très bien maîtrisé. Voilà. C'était leur façon de faire, et je pense que c'était la meilleure.
En termes de rythme, on va dire que les professionnels se sont pas trop mal sortis, que ça soit Xbox ou même la conférence de Geoff, le Summer Game Fest. En termes de rythme, ça allait. En termes de proposition, c'était autre chose, mais en termes de rythme,
c'était pas les plus désagréables.
Après, si on doit, le truc, c'est qu'on fait plus le gagnant de l'E3, tu vois, le constructeur.
Non, parce que parce que dans cette émission, je pense qu'on n'aura juste pas le temps.
Déjà.
Parce que il y a eu énormément de conférences, on va le voir. Mais oui, au final, déjà on s'en fout. En vrai.
De 1, nous on
déjà.
Déjà on s'en tape parce que de toute façon globalement à part moi qui joue des fois sur Switch, tous les deux on est plus orienté PC, donc c'est surtout ça qui nous...
Parce que j'ai vu vite fait des articles qui disaient les gens du State of Play c'était dégoûté par rapport à ce que la Xbox conférence a montré.
J'ai envie de dire c'est très drôle vos histoires de bataille de fourches et de sabots, c'est très intéressant.
Ouais, vous avez des problèmes, il se passe d'autres trucs en ce moment dans la vie.
C'est hein? Ça.
Bon, je sais pas, on l'évoquera peut-être, mais
c'est possible.
C'est pas impossible, mais du coup on a quand même qu'une heure. Donc, pour vous présenter un petit peu tout ce qui s'est passé, on a dû faire des choix, j'ai envie de dire, draconiens, pour se limiter à un titre chacun, toi comme moi.
C'est ça.
Pour chacune des conférences.
Le jeu qu'on a retenu pour chacune des conférences, sachant que des conférences, on a eu une dizaine.
Pas loin. Et voilà. Je suis même pas sûr que ça passe.
Ouais.
Mais allez. Du coup, on attaque avec le Guérilla Collective.
Vas-y, Guérilla
Collective. Donc, grosse conf, dès le jeudi soir, donc la semaine dernière.
70 jeux quand même.
72 pour être précis.
72 jeux présentés.
Ouais. Indé. 72 jeux indés, avec du déjà vu, quelques nouveautés au milieu. Difficile de choisir un seul titre, en vrai, vu la quantité et la variété du plateau de la conf. Donc, une conf organisée par le Media Indie Exchange, qu'on appelle plus communément le MIX, un collectif composé de développeurs de jeux et de vétérans de l'industrie qui sont réunis pour sélectionner et récompenser les jeux de studios, et en tout cas la créativité de certains studios, en les aidant à obtenir de la visibilité. Comment ça, ça vous rappelle le triple I initiative ?
C'est complètement le triple I initiative, à part que le triple I initiative, pour moi, était peut-être plus proche du futur game show dont on parlera plus tard.
Tout à fait. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, bizarrement. Du coup, à quoi t'as pensé, toi ? Qu'est-ce que t'as ressorti comme jeu, pardon ?
Eh bien, le jeu que j'ai ressorti, même s'il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes dans ce Guérilla Collective, dont des jeux qu'on avait déjà vus, mais un jeu que j'avais pas vu auparavant, c'est un jeu qui s'appelle Little Problems Cozy Detective Game, qui est en fait un jeu du studio Posh Cat Studios. Je ne sais plus d'où il vient, mais il me semble pas qu'il soit américain. C'est un jeu qui sortira en 2024, qui sortira globalement, qui était prévu pour PC et sur Switch. Et en fait, c'est un jeu d'enquête qui va être assez calqué sur des jeux d'enquête assez modernes, comme on a vu ces dernières années, comme Obradine ou comme The Case of the Golden Idol. Plutôt que d'aller sur des enquêtes classiques avec soit de l'horreur, soit des meurtres, soit des trucs assez dark, on va dire. Là, c'était vraiment sur les petits mystères du quotidien.
Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés?
c'est ça. Et en fait, le principe, c'est que il va falloir d'abord identifier les différentes personnes qui y a dans les scènes et qui sont concernées, et ensuite pouvoir les identifier pour savoir qui a fait quoi, avec un système de mots à placer dans des phrases, d'où la ressemblance avec Golden Idol.
Ok.
Voilà. Okay. Et j'ai trouvé non seulement le design assez sympa, mais aussi le fait de faire des enquêtes dans un truc où c'est pas forcément des histoires de meurtre ou de vol ou de,
ouais, de police
ça,
quoi.
De trucs de police assez assez sympa, parce que au final ça rejoint souvent les discussions qu'on a entre potes à base de tiens, il y a ça qui est arrivé, je me demande comment c'est arrivé, tiens, qui a fait ça et tout ça. Donc c'est cool.
OK.
Donc ça m'avait plutôt plu, et c'était un truc qui m'avait bien tapé dans l'œil dans le Guerrier Collectif.
OK. Moi j'avais vu le Endzone 2, mais c'est parce que c'est du city builder post-apo à la Banished, mais post-apo, donc forcément ça me parle. Mais j'ai quand même plutôt envie de parler d'un jeu que je connaissais pas. Parce que Endzone 2, je savais qu'il existait.
Oui, c'est comme moi avec Constance, je sais que c'était un Metroidvania, voilà, qui est très sympa et que j'attends très fort, mais que je l'avais déjà vu.
Et du coup, moi ce qui m'a un petit peu marqué, c'est Trailblazers Into the March.
Okay.
C'est un rogue light, un rogue globalement. Dans lequel on dirige l'équipage d'un vaisseau, mais d'un vaisseau qui marche, et on le suit dans son exploration d'un marais.
Ah, c'est le château ambulant.
Et c'est très proche. Il y a quelque chose dans l'idée, hein, clairement. Avec un gameplay qui mélange la gestion de communauté à la RimWorld, avec carrément ils reprennent les graphismes, point pour point,
tu veux
la
dire
partie gestion.
Tu veux dire que c'est aussi moche que RimWorld ?
Fais très attention à ce que tu dis. Mais oui, hein, clairement.
C'est du gros pixel.
C'est pas du pixel. C'est pas du pixel.
C'est vrai.
RimWorld.
C'est vrai.
Mais du coup, il combine cette partie-là avec des combats tactiques qui me rappellent beaucoup FTL. Vraiment l'immense succès indé d'il y a 12 ans maintenant, presque.
Oui, de gestion de vaisseau.
Avec des choix à faire en fait dans la suite de ton évolution, enfin de tes déplacements.
Il y aura un côté rogue aussi
ou... Bah oui, complètement, oui. Avec le tout dans une DA, une direction artistique très Mobius. Mm-hmm. Donc vraiment, voilà. C'est un truc qui m'a complètement tapé dans l'œil. C'est le premier jeu du studio suisse Strangers, qui a une équipe francophone, puisqu'ils sont basés à Fribourg. Et le jeu n'a pas encore de date de sortie.
Ok. Ben, voilà. Écoute, je le dis dès maintenant, mm-hmm, pour tous les jeux dont on parlera, à suivre.
Oui, pas complètement, mais c'est l'idée, hein, clairement.
Voilà.
C'est l'idée, sauf un jeu que j'ai choisi, il y a un jeu qui est sorti déjà, dans ce que j'ai choisi.
Moi, je dirais, il y aura peut-être quelques jeux que j'ai choisi, dont j'aurais fait la démo. Donc peut-être que j'en parlerai plus. En tout cas, les deux jeux dont on a parlé, Guerrier Collectif, il n'y avait pas de démo disponible. Enfin,
quasiment pas. En tout cas, dans ceux qu'on a choisis, mais relativement peu dans la conf, dans son ensemble d'ailleurs. J'enchaîne avec le Summer Game Fest que j'ai le vendredi soir, la fête à Jojo,
oui,
à Geoff Kiki, oui, à Geoff Kili,
oui,
qui nous l'a survendu toute l'année, hein, avant de brusquement mettre des taquets dans les genoux de la hype, en disant à tout le monde de se calmer, qu'on ne verrait pas que des nouveautés. Et peut-être que du coup les 250 000 dollars demandés pour un trailer d'une minute en a refroidi certains. On ne parlera pas non plus de sa tentative
On va en parler
franchement affligeante d'avoir une pensée pour les studios fermés et les milliers de développeurs licenciés. Mais au milieu de tout ça, il y avait quand même deux trois nouveautés dans le show, et surtout une initiative qu'on aimerait saluer. Est-ce que tu veux parler de l'initiative ? Est-ce que tu veux parler d'un jeu ?
Vu que tu as parlé d'initiative, parlons de l'initiative en premier, parce que moi je trouve que au-delà des jeux, l'initiative,
ça valait le coup.
C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, et je la mettrais en parallèle avec, juste pour creuser par rapport à Geoff.
Mm-hmm.
Geoff, en fait, il a introduit le show en parlant du coup des milliers de gens licenciés, sans donner de chiffres évidemment, parce que voilà, c'est pas bien pour l'industrie, et c'est pas bien pour l'industrie, et pardon, c'est pas bien pour les gens qui lui donnent de l'argent d'habitude, de préciser les chiffres. Mais en gros, il est parti sur je vais pas dire une diatribe, mais sur un discours qui disait il y a plein de gens qui sont fait virer, et c'est triste, mais regardez, il y a plein de jeux indés qui font plein d'argent, alors ça va.
Globalement. Rien que cette phrase, on pourrait y passer une heure.
Oui.
Du coup, on va pas le faire maintenant, mais on s'en souviendra, Geoff.
Mais c'était.
On s'en souviendra, Geoff.
C'était
incroyable de cynisme, et de. Et je sais pas, d'incompréhension de la réalité, en vrai.
C'était audacieux, et c'était pour dire, en gros, c'était vraiment le message pour le public à base de. De toute façon, on s'en fout que des gens soient partis, parce que de toute façon, vous avez toujours des super jeux, alors ça va, on s'en tape.
Et c'était clairement en réponse à ceux qui lui sont tombés sur la gueule au Game Awards.
Notamment.
Donc, non, ouais, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire rien que ce qui de ça, mais voilà, c'est pas le moment.
Voilà, je voulais juste. Mais
on l'oubliera pas.
Mais je voulais juste quand même.
Je te comprends. Appuyer. Je comprends. Mais du coup, l'initiative donc qu'on voulait un petit peu mettre en avant, donc c'est l'initiative de Inner Sloth Studio, qui est ça devrait vous parler hein, à n'importe qui. Je pense que ça peut parler maintenant. On a connu le Covid, voilà. Donc on a connu Among Us. Voilà. Donc Inner Sloth, c'est le studio qui a sorti Among Us, qui a complètement explosé au milieu de nulle part, 2 ans après sa vraie sortie.
C'est ça.
Quand même, hein, n'oublions pas cette situation. Et donc, ils ont lancé l'initiative Outer Sloth. Donc, leur projet, c'est du financement de jeux indés. En gros, du financement, mais pas de l'édition, pas de pourcentage sur... Enfin, ils vont pas acheter vos licences, enfin, vos IP, ce qu'on appelle une IP, c'est une propriété intellectuelle. Ils vont pas s'immiscer dans le développement, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent. Ils ont pas ce projet-là. Ils sont vraiment là pour redistribuer. Le ruissellement, ça te dit quelque chose? Le ruissellement.
C'est vraiment un fonds de développement, en fait.
Complètement.
Là, juste pour avant que tu détailles ce qu'il en est, la démarche en fait du studio Inner Sloth, c'est de se dire que eux, ils ont gagné vraiment masse de pognon grâce à
un petit peu sorti de nulle part en vrai.
Grâce à un jeu en fait qui n'était pas destiné à gagner autant d'argent. Et surtout, ils savent que c'est un jeu qu'ils ont développé et qu'ils ont sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont développé dans l'anonymat le plus complet. Quand il est sorti, le jeu, personne n'en parlait. Et,
un peu de choses près, ouais.
Personne n'en parlait et personne ne savait ce que c'était. Le jeu a explosé, entre guillemets, en même temps que...
En même temps que le Covid, hein.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu deux phénomènes du Covid. Ça a été
Animal Crossing
Among Us, quoi. Voilà. Ouais.
Animal Crossing que tu joues plus ou moins en solo et voilà. Among Us que tu joues avec tes potes.
Et qui sont devenus deux phénomènes majeurs du jeu vidéo. Alors que c'était pas prévu comme ça, quoi. Et pour le coup, les gens de Inner Sloth se sont bien, en fait, se sont souvenus qu'ils ont pas toujours roulé sur l'or, ouais. Et qui se sont dit que eux, ils auraient bien aimé que lorsque ils ont commencé, que des gens viennent vers eux et leur donnent de l'argent juste parce que ils croyaient en leur projet, tout simplement.
Et du coup, ils veulent faire pareil. Avec vraiment une logique de partage. Eux, ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc en gros ils veulent financer des jeux, ils veulent pas publier les jeux, ils veulent pas être l'éditeur, ils veulent pas prendre, voilà, comme je disais, la propriété intellectuelle. Ils veulent juste que les jeux puissent être financés et aller jusqu'au bout du projet. Donc en gros, comme ils le disent, on vous donne de l'argent, vous prenez l'argent, on se fait un signe de tête et puis après voilà, on est
bonne chance.
Voilà, exactement. Sans voilà, vous faites ce que vous avez à faire avec ce pognon et puis démerdez-vous.
Et entre guillemets, si je se plante, je veux dire, bah tant pis quoi. Mais
c'est exactement ça.
C'est pas le problème.
C'est exactement ça. Avec une vraie liberté, pas d'autorité, pas de décision prise par ceux qui ont participé finalement au financement du jeu. Et puis bah comme ils le disent, les gens qui disent qu'ils sont gentils le sont jamais vraiment. Mais on pense qu'on est à peu près ok comme gens. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de moyen pas creepy de le dire, mais du coup on vous le dit quand même, on est des gens sympas.
Voilà.
Mais du coup voilà, ils veulent ils ont donné une petite liste hein, des projets qu'ils ont déjà auxquels ils ont déjà participé.
Projets qui avaient l'air intéressants en plus.
Oui, assez variés en plus. Mars First Logistics, One Button Bosses, on a Battle Suit Aces aussi qu'on aura vu dans la conférence plus tard.
C'est ça.
Bref, il y a eu 2-3 trucs. Il y a eu le prochain jeu de Strange Scaffold, le studio de Xavier Nelson Jr. qui est toujours intéressant dans ses propositions. Également le studio qui a fait le jeu Vemba.
Oui.
Bref, ils ont déjà mis une petite liste en fait de jeux qui vont participer. Et ce qui m'intéressait effectivement aussi, ce que je voulais signaler, c'est que ils refusent les projets à blockchain et à Web3, whatever that means.
Les projets bullshit.
Okay. En gros. Les jeux VR également. Et puis les jeux qui sont déjà sortis en early access.
Voilà.
Mais du coup, on est vraiment sur une proposition intéressante, extrêmement ouverte.
Oui,
et extrêmement inclusive de toutes les propositions possibles.
C'est ça.
Les formes possibles.
Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les jeux proposés sont vraiment sur... sur des choses assez diverses, pour faire clair, ça va du RPG au hack and slash, au jeu de shoot spatial, C'est très très c'est très très divers, donc il y a pas de c'est pas sur un style ou une approche particulière, c'est juste si eux estiment que le jeu est cool, on donne l'argent. Point.
Et c'est vraiment bien dans la situation actuelle, dans cette économie.
Mais il y a aussi des jeux.
Oui. À quoi t'as vu toi ?
Le jeu qui m'a vraiment vraiment fait de l'œil, c'est un jeu qui s'appelle Wonder Stop, qui est un jeu qu'on pourrait qualifier pour le wholesome,
Comme beaucoup. Hein.
Voilà.
Comme beaucoup. On en reparlera quand on y sera. Mais
à la base, c'est un jeu qui sortira, qui un jeu prévu pour 2024, qui est un jeu de gestion d'un salon de thé, qui a l'air très cosy. Sauf que le salon de thé est mené par le personnage d'une guerrière avec un gros syndrome post-traumatique.
Avec un passé. Hein, ouais,
avec un vrai passé qui a l'air assez vénère. Et le jeu aurait pu passer vraiment sous le radar si on ne connaissait pas ceux qui le font. Ceux qui le font, c'est les gens de Ivy Road. Ivy Road, qui est en fait un studio qui a été monté par des gens qui ont fait notamment The Beginner's Guide, et puis un petit jeu qui s'appelle Stanley Parable. Mm-hmm. Et Stanley Parable, pour moi, est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Et donc, quand les gens qui ont fait Stanley Parable disent on fait un nouveau jeu, je le regarde forcément.
On écoute, tout à fait. Moi, j'ai vu un autre truc pendant le Summer Game Fest. J'ai vu Civilization 7.
Ouais.
Bon, on l'a vu passer, mais on n'a rien vu du tout en vrai. On sait qu'il existe, c'est à peu près tout, on en saura plus sans doute. Mais du coup, pour parler d'un truc qu'on a vraiment vu, j'ai envie de parler de Cairn. Cairn, c'est un jeu d'escalade que j'ai presque envie de qualifier de réaliste, de technique, d'une certaine façon, dans lequel on incarne une alpiniste, donc qui grimpe une montagne à la main, avec une DA que je trouve vraiment réussie, qui fait vraiment ressentir les efforts de la grimpe. Et en plus de ça, c'est fait par les Montpelliérains de Game Bakers. Game Bakers, on les connaît parce qu'ils ont fait Fury, mmh. Et ils ont fait Haven aussi. Voilà, on sait qu'ils savent faire du gameplay, on sait qu'ils savent faire de la narration, on sait qu'ils savent faire beaucoup de choses en fait, ces gens-là, et on est très content de les revoir sur un projet encore une fois très différent de ce qu'ils ont fait avant.
Complètement. C'est, pour moi, c'est de la. Beaucoup l'ont comparé le jeu à Jusant, pour moi, c'est plus de la simulation d'escalade par rapport à Jusant qui est un walking sim avec une mécanique d'escalade.
Mais j'ai quand même envie de voir ce. Quelle narration ils vont mettre autour, parce que je sais qu'ils vont en mettre une.
C'est intéressant, surtout que voilà, on voyait un personnage qui avait l'air de bien lutter comme il fallait.
Avoir, ouais, et de vraiment d'avoir envie de se dépasser pour autre chose que simplement la beauté du geste.
Ouais, voir. Ben,
donc pour moi, il y a quelque chose derrière.
De façon céleste, vu que c'était le propos aussi du truc, donc à voir.
Mais du coup, juste après le Summer Game Fest, on a enchaîné avec le Day of the Devs. Le Day of the Devs, c'est un des plus vieux collectifs de jeux indé. C'est maintenant une organisation à but non lucratif d'ailleurs, créée en 2012 par notamment Double Fine, donc des créateurs de jeux aussi.
Avec Tim Schafer.
Tim Schafer,
à sa tête. Ouais.
C'est une institution, clairement, hein, dans le domaine. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je commence, toi ?
Je t'en prie.
Moi, ce que j'ai vu là-dedans, que j'ai envie de ressortir, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas forcément évoquée pour l'instant encore, mais c'est que il y a des jeux, on les a vus dans beaucoup de confs.
Oui.
Dans beaucoup de conférences différentes. Et d'ailleurs, tu vas en parler. Oui. Il y a eu des doublons, des triplons, des multiplons dans le cas de...
Ah, le mien, c'est 4.
Ah oui, non, c'est 5.
Ah,
j'avais
cinq.
Compté, c'est 5.
Ah, pas mal.
Ah ouais, non, très très beau. Mais moi, du coup, j'ai pas envie de parler de celui-là, parce que sinon, ça ferait encore une fois de plus. C'est Zoocosis. Alors, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais en gros, c'est un jeu à l'apparence des simulateurs de vrai travail.
Le jeu de la double girafe, c'est ça ?
Il y en avait pas que deux. C'est ça qui est inquiétant. Mais voilà, donc on joue en fait un soigneur de zoo. Donc il va avec son petit chariot mettre à manger dans les gamelles des animaux dans un zoo. Mais il y a un twist, il y a un vrai twist à un moment. Le jeu devient un bodycam horror, comme on dit, bodycam pour la représentation de la caméra comme si elle était sur le torse.
Oui, tu parles
du
pas
joueur.
Du jeu bodycam qu'on a vu d'ailleurs dans
qu'on a vu. Mais le bodycam en tant que genre, en tant que façon de représenter l'environnement, en tant que d'endroit et de façon de placer la caméra, un petit peu l'esprit GoPro avec les bords arrondis,
voilà.
D'une certaine façon. Donc c'est un bodycam horror, clairement, avec des créatures qui partent en vrille à la The Thing de John Carpenter, clairement. Et donc moi, c'est vraiment de l'horreur corporelle, d'une certaine façon. Moi, ça marche très bien sur moi. Mmh. Et du coup, voilà. Et c'est, en plus de ça, fait par un studio qu'on connaît pas. un studio indé qui est international, mais en télétravail international, donc il y a des gens de partout, mais qui officiellement est basé en Bulgarie, qui s'appelle Clapperhead.
D'accord.
Qu'est-ce que t'as vu, toi, donc, du coup ?
Eh bien, un jeu qui va rendre la plupart des gens dysphasiques, qui s'appelle...
Ah, c'est agressif, ça.
Soyons clairs, en même temps, c'est vrai. Attends.
Je sais. J'ai vu le jeu.
Un jeu qui s'appelle Screenbound, du studio américain Crescent Moon Games. Un jeu, on ne connaît pas encore la date de sortie, mais c'est un jeu surtout dans lequel les joueurs doivent naviguer dans un environnement 3D, tout en ayant une sorte de, allez, on va dire, une sorte de DS ou en tout cas de Game Boy à la main. Mm-hmm. Et en fait, ils vont jouer dans une aventure à défilement latéral en 2D sur leur Game Boy, et en même temps, ça les fait se déplacer sur l'environnement 3D. Alors, sachant que...
Faut avoir des yeux partout, quoi.
Ouais, faut avoir des yeux partout. Sachant que, par exemple, sur l'écran 2D qui sera face à vous, il y aura des ennemis qui ne seront pas représentés dans le monde en 3D, donc il faudra les taper.
Mais uniquement à travers la Game Boy DS, ce que tu as dans les mains.
Non, ça va être... voilà. Donc, c'est un jeu de dissociation cognitive qui va...
Et même visuel, en fait, il faut avoir visuel. Des yeux sont capables de regarder à différents endroits en même temps.
C'est ça, ça va être assez... en fait...
c'est original, en tout cas.
C'est très original. Bon, ça ressemble plus, honnêtement, à une expérience qu'à un jeu commercial, mais en tout cas, il a tapé dans l'œil de beaucoup de conférenciers différents, vu qu'il a été présenté partout.
Exactement. Mais ouais, non, très intéressant, malgré tout. Je suis complètement d'accord, c'est... Que le jeu soit bien ou pas, rien que l'idée valait le coup.
Romain, il est temps de parler de Volvi.
Oui, parce que on enchaîne très vite avec le Devolver Direct.
Oui.
Alors, Devolver Direct, c'est très attendu comme chaque année. Le show de l'éditeur d'indé Devolver, ultra connu pour ses nombreuses réussites de sorties de jeux inventifs et novateurs globalement.
Et
il tournait autour de l'anniversaire de sa mascotte Volvi.
Oui, sachant que c'est une mascotte qui a été purement inventée il y a 2 ans, parce qu'il n'y a aucun jeu
où il apparaît.
En fait, c'était il y a 2 ans pour une précédente conférence Devolver. Ils avaient inventé cette mascotte-là pour reprendre le principe des mascottes, c'est Mario, Sonic, etc.
Et la lore, elle est dégueulasse.
Donc c'est une sorte de...
C'est un rat.
C'est un rat crayon. Avec un bras plus grand que l'autre.
Une main monstrueuse et une main toute petite.
Ouais.
C'est un petit hommage à Trump.
Ouais, voilà.
Pour la main toute petite.
C'est ça. Et quand il avait été présenté, c'était un truc déjà, une sorte de créature de Frankenstein dégueulasse. Mmh. Quand il l'avait présenté il y a 2 ans. L'année dernière, c'était pas mieux.
Et là, cette année, c'était censé être son anniversaire.
Ouais.
Et du coup, on s'est retrouvé dans du grand n'importe quoi, encore une fois.
Bon, on allait voir un fan de Volvi, en fait.
Oui, c'est ça. Un fan. Tu connais Misery ? Voilà. Alors, bon, par contre, on s'inquiète un peu parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Volvi depuis la conf. Le show valait le coup au milieu de cette histoire très bien racontée et très dérangeante, dérangée, je sais pas.
C'est vrai que bizarre. C'est vrai que d'habitude, il y a un truc où, ils font des trucs très avec genre d'explosion, du sang qui a longtemps été la marque de fabrique.
Oui,
de
le Nawak, mais avec du show.
Avec du show, avec beaucoup de l'autodérision, avec des vannes de prépubères,
on s'en approchait là, mais oui.
Bah ouais, mais disons que pour une fois, on était sur moins du tiens, tu vas te prendre des explosions dans ta gueule, et plus c'est extrêmement dérangeant, les gamers vous faites peur. Et
c'est ça.
Comme chaque année, à cette période-là, la conf Devolver, c'est un truc à voir. Mais en général, c'est vrai que des fois, on est un peu déçu par les jeux parce que les jeux sont OK, mais voilà. Mais là, j'ai trouvé que les jeux, c'était vraiment bien. Genre, il n'y en a pas un où j'aurais dit c'est...
Ça vaut pas le coup.
Ouais.
Et du coup, c'était un show assez court, avec clairement une sélection qualitative plus que quantitative.
Oui, comme d'habitude, c'est 5-6 jeux en général, les comptes.
Exactement. Là, c'était 6, dont 3 qu'on connaissait déjà. Certains, c'était des DLC pour des jeux déjà sortis.
Oui.
Mais on a quand même eu quelques jeux qu'on n'avait pas vus encore. Un qu'on avait déjà vu, dont je vais parler, et un qu'on n'avait pas encore vu, dont tu vas parler.
Yes.
Et moi, j'ai envie de parler de Crush House, The Crush House. Donc, en fait, là, c'est...
On l'a vu Days of Dave's.
Oui, et même qu'on avait vu avant ça encore.
D'accord, ça
je crois
pas.
Qu'on l'avait vu il y a quelques semaines, quelques mois, bref. J'avais déjà vu ce truc. Et donc, en fait, bah, clairement, on est dans la télé-réalité. Hein. C'est cette fabrique de célébrités à partir de rien qui font n'importe quoi dans une maison de luxe. Mais bah, ça n'existerait pas sans les petites mains qui font, qui produisent cette émission. Et dans The Crush House, on joue un caméraman qui suit les disputes, les amourettes d'une bande de glands à grand renfort de zoom sur les culs, de plans artistiques de coucher de soleil et de placement de produits, hein, évidemment, pour faire plaisir au public, mais aussi aux annonceurs. Et du coup, il y a voilà, il y a un côté vraiment extrêmement cynique sur la façon de le faire, sur les objectifs qu'on a en tant que caméraman et qui doit produire en fait le contenu que le public va regarder. Et effectivement, en même temps, ils mettent des pubs au milieu.
Et je pense qu'il y aurait et ce serait pas un jeu d'Evolver si dans les coulisses il y avait pas un truc extrêmement dérangeant.
Mais rien que le concept en fait.
Ouais.
Rien que le concept et ils le mettent bien. Moi, il y a une démo qui est disponible à laquelle j'ai joué,
okay,
et qui te le fait sentir déjà dès le début.
Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine.
Peut-être. Quand j'aurai recontinué un petit peu ma partie. Ouais. Mais du coup, c'est fait par le studio britannique Nerial, qu'on connaît déjà, parce qu'ils ont déjà fait des excellents Reigns et Card Shark.
Reigns, on est d'accord que c'est...
Le jeu du swipe. À chaque fois, tu as une situation, okay, tu vas prendre une décision à droite ou à gauche. Voilà, ils ont fait Reigns, ils ont fait plein de déclinaisons de Reigns, qui est un très bon jeu.
Oui. Eh bien, moi,
et toi, du coup ?
Moi, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Possessors, donc Possessor entre parenthèses S.
Mmh.
Qui est aux surprises un Metroidvania en 2D donc comme on en a vu beaucoup. Si vous voyez pas ce que c'est un Metroidvania, pensez Hollow Knight, pensez Blasphemous, pensez Ori and the Blind Forest, voilà. Donc
Dead Cells.
Dead Cells est un rogue, donc
oui, c'est plus un rogue qu'un des Metroid. Ouais, non, tant pour moi.
Voilà. Et là, en fait, bon, les deux choses qui font que ça a attiré l'œil, c'est que certes, il orientait combat, mais c'est que la DA est absolument magnifique. Et deux, c'est que c'est Art Machine qui le fait. Art Machine, c'est les gens qui ont fait Hyper Light Drifter. Qui vont bientôt sortir Hyper Light Breaker. Et moi j'avais adoré le jeu Hyper Light Drifter, et je suis pas le seul pour le coup, parce que c'est un jeu qui a vraiment bien marqué. C'est un jeu qui montrait une vraie maîtrise de la narration environnementale, et c'est ça qui est vraiment important dans un Metroidvania, plus que la parlotte ou ce genre de choses,
ou les mécaniques qui finalement se ressemblent assez vite.
Voilà, et c'est quelque chose où je me dis, tiens, si les gens qui ont fait Hyper Light Drifter font aussi ce type de jeu avec une DA magnifique comme ça, je suis chaud.
Ok, on va enchaîner.
Alors le lendemain, on est déjà le lendemain. Et oui, on est.
Voilà, vous avez déjà dormi, restez avec nous.
On est samedi.
Non. Si.
Si, samedi, oui. C'était vendredi soir à 2h du matin.
Oui, c'est vrai, tout ce bordel. C'était dans l'enchaînement du Summer Game Fest.
Mais oui.
Oui, donc on est samedi et on attaque l'après-midi avec le Future of Play.
Oui.
Alors, le Future of Play, c'est un showcase un peu méconnu en vrai.
C'était bizarre.
qui est présenté par une vitubeuse glitch qui s'appelle, mais qui a comme credo d'être une vitrine de jeux inoffensifs pour toute la famille. Qui a dit Wholesome ?
Ouais, alors, j'ai pas trouvé que c'était si Wholesome que ça, le Future of Play.
Pas tant.
Par rapport à
Wholesome, qui là, lui, va vraiment dedans, mais on en reparlera de la guimauve.
Qui est une conf en ASMR. Hein.
On en parle juste après. Ne spoil pas tout. Mais le Future of Play, effectivement, il y avait quand même un peu cet esprit, avec un peu moins peut-être de... Enfin, il y avait des choses un petit peu différentes. Je sais pas si t'as vu quelque chose là-dedans, toi.
Oui, moi j'ai vu, j'ai envie de parler du jeu Node.
Okay.
NODE avec des petits points au milieu, et en fait c'est un jeu qui c'est un puzzle platformer. En gros, on est en 2,5D, donc on se déplace que sur le plan horizontal. Et le jeu fait beaucoup penser au jeu Inside, notamment.
D'accord.
Par son
apparence, la façon de représenter ce qui se passe,
oui,
l'action.
Voilà. Et même sa manière de représenter, et surtout même son ambiance. Le côté très
pas post-apo, mais dictature un petit peu technocratique,
dictature technocratique et assez aseptisée au final, mais avec des trucs un peu crado qui traînent à droite à gauche.
C'est souvent ça, la dictature technocratique.
Exactement.
C'est un bon résumé.
C'est ça, mais la grosse différence, c'est que c'est pas un jeu où vous allez prendre la manette et sauter et faire des petits sauts et aller de droite à gauche. C'est un jeu où vous allez diriger un robot, et lorsqu'il faudra résoudre une énigme, il faudra programmer les déplacements et les actions du robot. Afin qu'il puisse activer les bonnes, enfin activer les bonnes choses et faire les bons déplacements pour passer au tableau suivant.
Donc il y a de la programmation, anticipation, coordination, quoi.
Exactement.
Il y aura de l'essai-erreur du coup.
Voilà, c'est un jeu pour Lupus, hein, on va pas se mentir.
Oui.
Lupus qu'on
salue.
Qu'on salue.
Évidemment.
Voilà. Non mais voilà, c'est ce genre de jeu. À voir à quel point le truc est poussé. Il y a une démo qui est dispo. Évidemment, j'ai pas encore pu m'y frotter.
On demandera l'avis de Lupus du coup.
Ouais.
Ok.
Et toi sur Future of Play?
On l'a vu dans d'autres confs, mais c'est quand même maintenant que j'avais envie d'en parler. Dungeon Crawler. Alors c'est un roguelite deck building finalement à la Slay the Spire, sauf qu'au lieu de construire un paquet de cartes, on va remplir une machine à pince comme on en trouve à la Vogue.
Si, il est bien. Il a l'air sympa, ouais.
Et on tente d'attraper les objets dont on a besoin pour tabasser les monstres qu'on rencontre. Donc c'est original, c'est frustrant comme en vrai, avec les objets qui tombent de la pince à côté de la trappe, clairement. Ou que la pince ne ramasse pas les bons objets que tu avais prévus.
Parfait.
J'ai bien aimé la démo qui est actuellement disponible, vraiment. Il y a une bonne idée et il y a vraiment un côté, ouais, à la fois frustrant et qui demande un minimum de stratégie quand même. Donc voilà, vraiment, je l'attends un petit peu, de voir un petit peu jusqu'où il peut aller. Et c'est fait par des Zurichois, des Suisses de Zurich, donc du studio Strayphone, qu'on connaît beaucoup. Pour The Wandering Village, le city builder sur un dos de gros dinosaures.
Oui, qui était aussi le jeu où tout le monde dit « Ah, mais c'est le château ambulant aussi !»
Non mais mais voilà.
Parce que les gens n'ont qu'une ref.
Exactement. on parlera pas du studio qui avait fait un jeu à la Ghibli en disant dans la description « on s'est inspiré de Ghibli ». Bah, tu m'étonnes.
Sans deck.
Mais on en parlera peut-être un autre jour de celui-là, mais bah, malgré tout, il est joli.
Oui.
Mais voilà, donc le Future of Play, il y avait des choses pas inintéressantes, mais ça faisait, c'est un peu redondant, clairement.
Je trouvais que c'était pas alors je l'ai animé, c'était pas la conf la plus passionnante, hein, très honnêtement.
Par rapport
elle avait la chance d'être relativement courte, néanmoins.
Oui. Mais juste après, t'avais le Wholesome Direct. Le Wholesome Direct, moi je l'ai animé.
Oui.
Wholesome, hein, c'est un mot qui est devenu un genre à part entière. Et d'ailleurs, le pitch de Wholesome Games qui organise le Wholesome Direct, il est relativement clair et il définit bien finalement ce que ça veut dire. C'est une sélection de jeux inspirants, bienveillants et chaleureux. Mmh. Je pense que c'est relativement bien résumé comme ça. Par contre, ils évoquent pas la palette de couleurs obligatoire pour faire partie du club. clairement, hein, si t'as pas du violet pastel, un jaune bien pâli, enfin bref, il y a quand même un esprit.
Oui, complètement.
Qui se voit. En fait.
Oui, pour le coup, quand on a préparé l'émission, j'avais proposé de faire une sorte de générateur de jeux Wholesome.
Ah ouais, tu peux aller déjà au niveau du genre.
Au niveau du genre.
Des noms.
Au niveau des noms, au niveau du genre, au niveau de la gueule que ça peut avoir.
Exactement.
Il
y en a un qui en a sorti un jour, qui a eu un succès monstrueux. Tout le monde s'est dit, tiens, cette palette de couleurs, je vais la réutiliser. Et depuis, on en bouffe.
Et tout le monde un peu à la même. Néanmoins.
T'as vu quoi, toi, dedans?
Alors, avant de dire c'est quoi, meilleur conf. Déjà de 1.
On avait dit au début qu'on faisait pas un classement et qu'on disait pas qui c'est qui avait gagné.
Je m'en fous. Meilleure conf. Non mais en fait c'est la conf
qui jeu qui correspond à ce que tu aimes.
Ouais, et qui est où j'ai eu le plus de mal à sortir un jeu parce que et d'ailleurs clairement je me vengerai la semaine prochaine. Je vais être clair parce qu'il y a pas mal de jeux dont j'ai testé les démos et dont je parlerai la semaine prochaine pour le Steam Netflix et on en parlera la semaine prochaine. Mais s'il y en a un que je sors, c'est un jeu dont on avait déjà entendu parler qui s'appelle Dungeon of Winterberg.
D'accord. T'as essayé la démo ?
Oui, j'ai essayé la démo.
Ok, donc tu peux nous en parler un peu plus de ce que c'est.
C'est ça. Et en fait, c'est donc un jeu par Microbird Game US. Un jeu qui va sortir très bientôt, hein, vu qu'il sort le 18 juillet. Donc il sort le mois prochain. Qui sera pour le coup, il sera aussi Xbox, PS5 et bien sûr sur Steam. Je suis pas sûr pour GOG, mais voilà. sur PC en tout cas, et c'est un jeu donc en cel shading et qui mélange en fait exploration de donjons et une grosse partie aussi relations sociales, où en fait on va avoir une partie en gros le scénario c'est que on est une personne qui est censée être dans un village de vacances en montagne qui va essayer et qui est là pour explorer des donjons, et dans chaque donjon en fait il y a des types de magie différentes avec des énigmes différentes, des ennemis différents et j'ai trouvé en fait notamment la DA très prenante,
oui.
Très intéressante.
C'est la première chose qu'on se dit quand on voit le jeu.
Ouais, la DA très prenante, très intéressante. Je n'étais pas convaincu au début par la castagne, mais en vrai, si, ça marche bien.
Ok.
Donc, j'en parlerai probablement mieux la semaine prochaine, mais en tout cas, assez convaincu par et la présentation et par la démo aussi.
Ok.
Et toi, qu'est-ce que tu as vu?
Moi, j'ai vu... Il y a beaucoup de choses. Clairement, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai voulu parler de Tiny Bookshop, un tout petit jeu tout mignon où on joue un libraire ambulant dans une roulotte qui discute avec des gens, qui vend un peu des livres, qui reconstitue son stock en parlant avec les gens, en trouvant un petit peu des trucs à droite à gauche, et qui change d'emplacement de vente sur la douceur du bord de mer dans un village vacancier. Donc c'est ultra chill, hein, clairement. C'est tout posé, c'est tout gentil, par un studio allemand de Cologne qui s'appelle Neoludic Games, dont c'est le premier jeu. Mmh.
Ouais.
Voilà.
Ouais, limite, j'étais juste pour sur Dungeon Winterberg, j'étais étonné qu'un jeu avec une bonne composante combat où on bute des ennemis
soit présent.
Wholesome.
Alors, si on veut
la
pouvoir.
La palette pastel fait.
Ouais, aide beaucoup à rentrer. On va enchaîner un tout petit peu plus vite. Très clairement pour la suite, parce qu'il en reste encore et on n'a plus beaucoup de temps.
Oui.
Donc il y avait le Woman Led Games qui, comme son nom l'indique, qui met en avant les créations de studios dirigés par des femmes ou à majorité féminin. Pas étonnant donc qu'on y retrouve des jeux déjà montrés dans d'autres showcases, parce qu'il y a une certaine cohérence un petit peu d'ensemble aussi. Toi là-dedans, tu as vu quoi?
Un jeu pour le coup que je connaissais déjà, qui avait été présenté il y a un bon bout de temps, je crois même à l'AG French Direct, qui a même pas celle de cette année, celle de l'année d'avant, et qui s'appelle Solitaire par le studio Beard Shaker Games. Et c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de cartes et qui se base sur où le principe c'est de voir des clients et de faire de la divination. Et en fait cette divination elle se fait via une sorte de jeu de puzzle où on peut résoudre les puzzles avec ton jeu de cartes de différentes manières, et les différentes manières vont définir les choses que tu vas dire à tes clients, et donc va donner la marche à suivre pour la narration, parce que selon les différentes solutions que tu vas donner, différentes divinations, et donc les clients vont réagir différemment et avoir des arcs narratifs eux-mêmes qui vont être différents. Donc c'est assez en tout cas la démo à l'époque était assez troublante. C'est la même démo qui est là dispo, et c'est un jeu qui me plaît bien, moi pourtant qui déteste les jeux de cartes, celui-là il m'a bien plu.
Ok, bah du coup je vais continuer à enchaîner, hein, parce que si on fait plus d'une minute par jeu, c'est mort.
Vas-y.
Moi celui-là, il y avait Duck Detective, The Secret Salami.
On connaît celui-là aussi.
Qui est sorti il y a quelques semaines. C'est le jeu qui est déjà sorti de ma sélection. Un jeu d'enquête où on joue un canard détective très cliché, hein, clairement, qui va devoir trouver qui fout le dawa dans une boîte de voyage en bus, où les envoyés se font harceler par un contrebandier de salami. Voilà. Rien que ça, ça donne envie. C'est déjà sorti, c'est très court, je l'ai fini en 2 heures, mais c'est vraiment très 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 bien. C'est le deuxième jeu du studio de berlinois Happy Broccoli Games, qu'on connaissait déjà pour Kraken Academy, et qui en prépare un autre.
D'accord.
Voilà, mais vraiment très très bien. Il vaut 8 balles, il vaut le coup. On enchaîne avec le Latin American Games Showcase, qui est une conférence assez récente, centrée sur les jeux développés évidemment en Amérique latine. C'est la deuxième année, mais c'est la première fois qu'elle est diffusée pendant les périodes du non-E3. L'année dernière, c'était en mars.
Pas une mauvaise idée, très honnêtement.
Mais avec un tel line-up, qu'elle a montré qu'elle avait toute sa pertinence dans le paysage actuel, clairement. Moi, ce que j'y ai vu, c'est un jeu qui s'appelle Iron Hive, qui est un jeu de stratégie deck building, où on exploite des ressources, on construit un palais gothique baroque, avec une, et on tente de faire survivre une colonie très très divisée en castes. Voilà, donc voilà, une très belle direction artistique, vraiment, vraiment un style, et une profondeur stratégique qu'on peut goûter dans la démo déjà, qui est fait par un studio brésilien, bon, c'est le premier jeu de Porto Alegre, qui s'appelle Wondernote.
Avant de parler, c'est bien que tu aies parlé du Brésil parce que mon jeu aussi il est brésilien.
Ah.
Néanmoins, je vais en placer une pour Warren Chiapas qui a l'air dingue.
Ouais, mais, je suis d'accord. Mais il n'y en a pas assez de matière, je pense, pour en parler.
Pas assez de matière pour en parler, mais ça a l'air incroyable.
Ouais.
Je vais parler de Bloodless. Bloodless par le studio Point and Chip, donc studio brésilien, et qui est édité par 3D Realms.
Tiens, non.
Voilà, et ben bizarrement.
C'est un boomer shooter ?
Et ben bizarrement, c'est pas un boomer shooter.
Incroyable.
Étonnant. Non, c'est un jeu. Alors, on est quand même dans le néo-rétro. Hein. On est sur des graphismes qui vont plus faire penser à la NES. Et c'est un jeu, en gros, qui est très orienté arts martiaux. Mais on va pas tuer les gens. Le principe, en fait, c'est qu'on est un ancien samouraï. Qui a vu beaucoup, enfin qui a vécu beaucoup trop de d'actes violents et qui a tué beaucoup trop de gens et qui en a marre et qui veut plus le faire. Et désormais, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il désarme ses ennemis. Et pour désarmer les ennemis, en fait, en gros, il faut attendre que les gens attaquent pour faire un dash au bon moment pour les désarmer. Ce qui fait que c'est un jeu qui demande beaucoup. Alors, la DA, elle est vraiment super cool pour tous ceux qui ont beaucoup aimé tout ce qui est ambiance 8-bit, mais c'est surtout qui demande beaucoup de précision, de timing dans le jeu. Le jeu est très dur, mais la démo m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je trouve qu'elle a vraiment une épaisseur, un style et. Okay. Vivement la sortie, quoi. Il sort le 29 août.
Ah oui, donc ça va arriver très très vite.
Oui.
Ok. On enchaîne avec le Future Game Show, yes. Qui est un show qui est organisé par le média Games Radar Plus.
Oui.
Depuis 2020, il existe, évidemment, depuis le Nono 3, en vrai. Oui. Le début du Nono 3. Il s'appelle le Future Game Show, pas parce qu'il parle de jeux du futur, mais parce que Games Radar Plus est détenu par la société Future.
Oui.
Qui possède aussi les médias PC Gamer, Marie-Claire, hein, parce que quand même, et ou Windows Central, qui parlera peut-être aussi à des gens dans la tech.
On avait parlé auparavant des futurs Future Game Showcase, notamment, il y en a vu en avril, qui était très intéressant et dont on avait parlé dans l'émission.
Tout à fait. Et à la présentation, ils avaient ramené quand même des acteurs Roger Clark et Britt Baron, je suppose, qui doublent Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2 et qui doublent également Tifa Lockhart de Final Fantasy VII Rebirth.
Je vais être clair, je préfère quand ils doublent des jeux.
Oui, là, complètement. La présentation était dégueulasse.
C'était rude.
Mais il y avait quand même des bons jeux dedans.
Oui, bah, c'est ce qui a sauvé le truc.
Voilà. Du coup, t'as vu quoi, toi ?
Eh bien, moi, j'ai vu un jeu que j'avais déjà vu.
Il me semblait. Hein,
que j'avais vu. Mais je vous en ai parlé pour lors de la Ludonarracon qui avait eu lieu le mois dernier. C'est un jeu français qui s'appelle The Operator. Un jeu du studio Montpellier 1, Bureau 81. Un jeu qui va sortir en juillet, donc ça, c'est très cool.
Yes.
Et c'est un jeu, en fait, d'enquête. C'est un jeu d'enquête en fait qui est très inspiré par X-Files et par des jeux type Her Story
ou Orwell.
Orwell aussi, c'est ce que j'appelle les jeux d'enquête d'interface. C'est-à-dire qu'on va pas se rendre sur place et tout, on va avoir une interface informatique qui va nous permettre de résoudre les problèmes qu'on a. Et si je parle de X-Files, c'est parce que oui, il y aura les petits gris.
C'est dès le début de la démo.
Dès le début de la démo, il y aura les petits gris. Alors au début, c'est des faux petits gris, mais peut-être que ce sera des vrais. On verra.
Et ben moi, j'ai vu un truc qu'on n'avait pas vu avant et qu'on ne savait pas que ça existait, qui est en première, donc au Future Game Show.
Yes.
Un jeu qui s'appelle Eriksholm, The Stolen Dream. C'est un commando-like, donc un jeu d'infiltration.
Ah, c'est un commando-like, finalement.
Ouais, c'est un commando-like, clairement.
Okay.
En vue infiltration, en vue isométrique, pardon. Infiltration en vue isométrique. Dans une Scandinavie uchronique du début du 20e, avec énormément de composantes narratives, parce qu'on est censé chercher notre frère, etc. Enfin bref, on n'est pas des militaires, en fait, qui viennent prendre le contrôle d'une zone, comme dans les commandos, mais les mécaniques de gameplay sont extrêmement proches.
Mais c'est un commando avec un seul perso ?
Pas seulement, il y a plusieurs persos qu'on va pouvoir jouer, interchanger, etc.
Okay.
C'est un peu plus. Mais donc, c'est une annonce inattendue, hein, clairement, qui n'était pas prévue, qu'on n'anticipait pas, on va dire. Un jeu très beau, une histoire qui a l'air bien mise en scène en plus, avec des cutscenes, des scènes cinématiques qui nous expliquent l'histoire. C'est évidemment, vu le thème et l'ambiance et le décor, c'est un studio suédois. de Göteborg, River End Games, dont c'est le premier projet, et qui en voit déjà pas mal.
Et pour info, c'est, si vous voyez le replay de ce qu'on a fait avec Press F5, c'est le jeu qui nous avait fermé notre gueule.
Clairement.
En étant en train de parler de tout, et puis le jeu il sort, ouf.
Ouais, il donnait envie.
Carrément.
Ensuite, il y a eu le Xbox Game Showcase.
Filou.
Le blockbuster de l'Access Prime Time de Microsoft, dimanche fin d'après-midi, avec de la franchise, clairement, de la licence, de l'attendu, un petit peu de surprise, et le moins possible de Phil Spencer.
Oui.
Et toi, qu'est-ce que tu as vu dedans?
Alors, il y a eu plein de gros jeux annoncés, donc c'est pour ça que je vais parler d'un jeu indé. un jeu indé qui s'appelle Mixtape.
Il y avait de tout, c'est ça qui était intéressant.
Oui. Un jeu indé qui s'appelle... J'ai hésité entre deux. Il y en avait un jeu français qui avait l'air vraiment très intéressant. Clair Obscur, Expédition 33, qui a l'air vraiment très intéressant en mode JRPG. Mais celui dont je vais parler, c'est Mixtape, édité par Annapurna, fait par les gens... Un studio qui s'appelle Beethoven et Dinosaur, ça ne vous dit rien. C'est presque pas normal, parce que ce sont les gens qui ont fait Artful Escape.
Voilà, si vous êtes faites partie des deux personnes à y avoir joué, non, je déconne, il a eu un petit succès.
Il a eu un petit succès, après, voilà. En tout cas, c'est un peu comme de Artful Escape, ultra stylisé. Artful Escape joué sur la nostalgie années 70, là, c'est la nostalgie années 90. Un jeu narratif qui sera probablement très linéaire, avec qui met à fond tout sur la nostalgie années 90 au niveau des vêtements, au niveau de lifestyle, au niveau des musiques aussi, parce que sont annoncés du Smashing Pumpkins, du Iggy Pop, du Siouxsie and the Banshees.
Oui, j'avais vu un petit peu esprit skater avec du Joy Division qui a fait un petit peu réagir des gens.
Oui, voilà.
Voilà, bon,
c'est,
ouais,
bon. C'est ça. Alors attention, hein, évidemment, comme souvent chez Annapurna, un trailer absolument ultra classe et incroyable. Attends, on verra
le gameplay.
On verra le gameplay, manette en main. Ça semble pas le truc le plus interactif du monde, mais en termes de trailer, ça en jette quand même. Annapurna.
Il sortait un petit peu du lot.
Ouais.
Des grosses licences. Moi, je vais tomber un petit peu dans la... Je ne sais pas si on peut l'appeler une grosse licence.
Non.
Mais malgré tout, on va quand même aller dans la licence.
Oui, ce n'est pas une grosse licence en vrai.
Je vais parler de State of Decay 3, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Je ne m'attendais pas à une présentation du 3, là, comme ça, qui tombait un petit peu de nulle part. Peut-être que j'avais mal suivi les infos, mais... Et j'espère très fort que Undead Labs, le studio américain de Seattle, qui a créé la franchise au début des années 2010, globalement, 2013, je crois... 2013-2014.
2013, il me semble, le premier.
Et aura appris de ses erreurs après un épisode 2, on va dire, globalement décevant en 2018.
Déjà, le premier était sympa, mais tout cassé.
Oui, mais ça, à l'époque, on s'en foutait.
C'est vrai.
Mais globalement, voilà, en gros, c'est de la survie dans une apocalypse zombie, mais avec une vraie composante sociale entre les personnages et de survie tout court, en fait. Donc voilà, le premier était vraiment très très bien. Pourquoi pas le 3 ? Pourquoi pas ? Ensuite, juste après, on a eu le PC Gaming Show pour terminer le dimanche.
Quel enfer.
Qu'est-ce que ça fut. Ça a été dur de supporter
désolé,
ça.
Mais, je suis désolé.
Une présentation aussi longue.
C'était la pire. Ça a été
la présentation
pire.
Était dégueulasse. En plus, le show était
horrible.
Long.
Ouais.
J'aime bien.
C'est quoi, 2h, 2h30, un truc.
Ouais, 2h30, je crois.
Horrible.
J'aime bien PC Gamer, le magazine. Il y a de temps en temps des bons articles dedans et des bonnes approches de certains sujets. Alors, leur show, c'était un malaise.
Ils nous ont pété
un malaise.
Les doigts avec Stormgate, bordel.
Aussi, mais pas que, c'était pas le seul problème. Mais bref, heureusement qu'il y avait aussi des jeux dedans et qu'il n'y avait pas que Stormgate.
Ouais,
il y avait quand même quelques-uns.
Trooper, super.
Il n'y avait pas que ça. T'as trouvé un jeu là-dedans, toi, ou...
Non. Ah, en fait, si. En fait, en gros, je vais juste parler de Unbeatable, qui est un jeu de rythme. Alors, soyons clairs, je sais que j'y jouerai jamais parce que je suis nul au jeu de rythme. Par contre, le jeu est stylé. Grave.
C'est la version finale d'un truc qui est déjà dispo.
C'est ça. Il y avait Unbeatable White Label qui est sorti il y a...
2021.
Ouais, il y a quelques années. Qui est un jeu de rythme qui s'inspire clairement, en gros, des studios Trigger, donc les gens qui ont fait... entre autres, Kill la Kill ou Cyberpunk Edgerunners, donc la version Netflix. Donc des gens qui savent, enfin des gens qui ont le sens du style globalement.
Ouais, et ça a de la gueule.
Le peu importe ce que ça raconte, le jeu,
le produit en tout cas va avoir de la gueule. Ouais.
Et Unbeatable a du style aussi clairement. La musique est très cool déjà dans Unbeatable White Label. La BO était vraiment très très sympathique. Le peu qu'on a entendu pour la version finale ici de Unbeatable, elle a l'air vraiment cool. Ça me frustre très fortement d'être complètement nul à ce genre de jeu, mais c'est un jeu que je youtuberai avec grand plaisir.
Ok. Ben moi, j'ai pas le choix. Je dois parler de Streets of Fortuna. C'est obligatoire. C'est un jeu de rôle bac à sable en monde ouvert, dans un univers complètement chaotique qui vit sa vie. Pendant que toi, t'essayes de jouer dedans, hein, en fait. C'est un nouveau jeu donc de Kid Fox Games, un studio canadien que moi, en tout cas, je connais parce qu'ils ont fait Boyfriend Dungeon, The Shrouded Isle, mais aussi, ils ont publié Dwarf Fortress sur Steam. Et d'ailleurs, les auteurs de Dwarf Fortress ont complètement participé et ont été consultants sur le développement de Street of Fortuna.
Ouais, ils ont mis leur seal of approval pendant la conf.
Et ils ont travaillé vraiment dessus. Ils ont vraiment apporté leur soutien technique. Et du coup, ouais, voilà. Donc, moi, c'est vraiment un jeu de rôle dans ces conditions. Ambiance assez romantique, globalement. Rome antique en deux mots. Donc voilà, enfin vraiment un truc qui me botte beaucoup. Même si j'en ai pas appris beaucoup pour l'instant dessus. Et voilà, le PC Gaming Show, c'était pareil, 70 jeux ou 50 jeux, enfin ouais, c'était
trop
beaucoup.
Trop de jeux, trop de fatigue, trop chiant, c'est désolé. Ça.
Et on va donc terminer cette avalanche par un lundi soir qui a été pas évident, parce qu'on avait quand même bien ramassé dans le week-end.
Heureusement, il n'y avait qu'une seule conf.
Il n'y avait qu'une seule conf, mais c'était celle d'Ubisoft. C'était l'Ubisoft Forward, avec notre ami Yves Guillemot, donc, qui a tout donné hein, sur ses grosses licences, pour une conférence que j'ai eu du mal à suivre, distrait que j'étais par les deux zozos qui la commentaient sur Press F5, dont un des deux zozos qui est en face de moi.
J'ai beaucoup rigolé.
Voilà.
Honnêtement, j'ai beaucoup rigolé.
Et visiblement, t'as pas retenu grand-chose.
Alors, honnêtement, le problème, c'est que les choses que j'ai retenues, c'est les grosses licences, le Star Wars Outlaws, le Assassin's Creed Shadow, où à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire, oui, mais tu sais que c'est un open world Ubisoft, mais bon... la démo est ça a l'air ultra sexy, donc forcément j'ai envie d'y mettre j'ai envie d'y jouer, mais comme tous les autres jeux Ubisoft de ce coup-là, j'y jouerai quand il sera offert sur l'Epic Game Store dans 2-3 ans.
Ok.
Toi, t'as peut-être retenu quelque chose de plus intéressant.
Ah oui, bah oui, parce que bon, j'aime pas les jeux Ubi, hein, clairement la plupart du temps. Il faut reconnaître que la série des Anno, donc voilà, il y en a eu un certain nombre maintenant, Anno 1800 dans le dernier est quand même sorti en 2019. Il y a 5 ans maintenant, une licence qu'ils ont récupérée à l'occasion d'un rachat, du rachat de Sunflowers il y a longtemps maintenant. Donc c'est pas non plus du Ubisoft dans le texte.
Je m'attendais pas du tout à un nouveau anneau perso.
Et moi non plus. La série a toujours proposé des jeux de stratégie de grande qualité. Et là, on nous promet un anneau 117. Anneau, hein, les chiffres, la somme des chiffres du nom du jeu fait toujours 9. Donc là, on est bien dans 9, mais c'est la première fois que le nom du jeu fait que 3 chiffres.
Ouais, et première fois, donc c'est avant l'an 1000. Ouais.
Exactement, avant l'an 1000, et même donc, au tout début de notre ère, on va dire. Donc, c'est parce qu'on va partir évidemment dans la Rome antique, là aussi, en deux mots. Voilà, appliquer la formule de Anno. Dans la Rome, dans l'Empire romain.
En plus, c'est une période intéressante où c'est vraiment la Rome goldée, quoi.
C'est l'âge d'or.
C'est Rome goldée.
C'est l'âge d'or. La grande majorité des grandes conquêtes sont terminées. On va commencer une vraie paix, une vraie paix romaine.
C'est la Pax Romana. Ouais.
Clairement, pendant plusieurs dizaines d'années, quasiment, avec des petites escarmouches, mais on n'est plus du tout. On n'est pas encore dans la déliquescence.
Même clair jusqu'à l'an 250.
Ouais, voilà,
ça va être la fête, quoi.
Mais 117, c'est juste après la mort de Trajan, et du coup, on est vraiment à la fin des Grodes, parce que lui, il avait terminé le travail au niveau des conquêtes.
C'est très intéressant qu'ils aient choisi cette époque-là.
Ben ouais, parce que du coup, ça veut dire qu'on va pas aller dans le conflit, on va être dans l'expansion, dans le développement et tout ça. C'est une très bonne idée. Pour une série que moi j'aime bien.
L'expansion commerciale et tout ça, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est une bonne idée qu'ils ont eu là-dessus.
Ils ont eu de la chance que ça fasse 9.
Ils se démerdent.
Ouais, mais ça tombe toujours pile avec la fin, avec la mort de Trajan, tu vois. Ouais. C'est parfait. Historiquement, c'est parfait. Mais voilà, donc du coup, voilà, comme on vous dit, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. que ce qu'on a pu évoquer ici.
On va être clair.
C'est évident.
On va être clair. On pourrait faire une deuxième émission avec les mêmes confs et avec un jeu à chaque fois pour toutes les trucs.
Voilà. Exactement.
Limite mais là, du coup. On est à la fin. On est presque frustrés. Il y a certains jeux dont on n'a pas pu parler. J'aurais pu faire une heure sur la Wolsom, perso.
On le savait. Et pourtant, elle n'a pas duré une heure. Elle a duré 45 minutes.
Mais la Wolsom
On le savait. Ouais. Je l'avais dit au début, c'est pas le format le plus adapté à un tel déferlement d'informations et de jeux. On vous invite à éventuellement aller voir les replays si ça vous intéresse, notamment celles des conférences qu'on avait suivies, toi comme moi, jamais ensemble, mais on en a fait quand même quelques-unes en tout. Mmh. Et du coup disponible sur le site sur la chaîne YouTube de Presse F5 ouais. Et puis également les quelques petits résumés que Lupus a pu faire sur le site Presse F5 dans la catégorie le non E3 sera facile à trouver, c'est la première actuellement disponible, le même site sur lequel vous pouvez trouver les replays de ces émissions.
C'est ça. On fait quoi la semaine prochaine?
Eh bien, parce que juste après c'était des débarquements, un déferlement de conférences.
D'annonces, en tout cas.
D'annonces et de conférences et de shows. On a droit actuellement à un Steam Next Fest. Donc, c'est un festival de démos durant lequel, en fait, beaucoup de jeux sont disponibles en démo. Que ce soit pour un temps limité et pas toujours. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà. C'est le moment où certaines démos sont mises en avant. Donc, on va pouvoir tester des jeux qui ne sont pas encore sortis. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques jours, toi comme moi.
C'est ça. Et autant des jeux qui ont été annoncés, là pendant cet événement, et d'autres jeux qui n'ont pas été annoncés, sur lesquels on est tombé, soit parce que ils étaient en wishlist, c'est-à-dire qu'on les avait déjà vus auparavant en termes de projet, soit parce que en fait le jeu a été mis en avant et qu'on a vu le truc, on s'est dit tiens, ça serait quand même pas mal d'y jeter un œil.
Tout à fait. Et du coup, on va avoir de la matière.
Ah oui.
Des jeux auxquels on a joué et dont on a envie de parler.
Je pense que
ce sera l'occasion la semaine prochaine de parler de ça.
Exactement.
Ça sera jeudi.
Mais on peut se retrouver mardi.
Exactement. On peut se retrouver dès mardi, mais pas à la radio. En vrai.
Au bar chez les Tartes.
Au bar chez les Tartes pour faire un quiz spécial métal.
Oui.
Metal.
Exactement.
Comme on dit.
Presse Tartes spécial métal, spécial Hellfest pour la dernière de la saison. Comme chaque mois, on vous fait une partie quiz et une partie blind test. Vous venez au bar chez les Tartes. Vous pouvez vous inscrire directement soit sur Instagram chez les Tartes ou sur Facebook et ça marchera parfaitement bien.
Et ce sera donc mardi 18 à partir de 20h. On peut venir à 19h30, ce sera parfait.
Exactement.
On sera très très heureux de vous y revoir. Voilà.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à toi Xavier pour
l'émission. On se donne rendez-vous mardi pour les meilleurs et jeudi pour les presque meilleurs.
Ou en replay pour ceux qui habitent pas sur Lyon.
Exactement. Allez, bonne soirée et puis jouez bien.
Merci, bonne soirée, salut.
Ciao.